Tov, shalom le kulam. Nous continuons, nous sommes dans la partie gauche du texte en haut. Et le sujet, c'est la capacité à comprendre le lien qui relie le peuple d'Israël à sa terre. Quels sont les degrés qui se révèlent lorsque le peuple revient à sa terre? Nous avons vu que ce n'est pas un mariage superficiel entre l'homme d'Israël et un lieu quelconque sur la planète, mais beaucoup plus fort que ça, lorsque l'homme d'Israël se retrouve dans ce lieu, en réalité il se retrouve dans le lieu qu'Akadosh Baruch Hu a créé spécialement pour cet homme, pour ce genre de neshama, pour ce genre d'élévation. Autrement dit, il y a une correspondance entre le lieu et la qualité de l'âme du peuple d'Israël dans ce lieu. Et c'est pour cette raison que ce lieu va agir, donc du bas vers le haut. La terre va donner des influences à celui qui marche sur cette terre. Et lorsqu'il y a correspondance, il y a en fait absorption. Et donc la terre d'Israël absorbe ses habitants, car il n'y a pas de rejet. S'il y avait un rejet, chas v'shalom, ça voudrait dire que la terre ne supporte pas, entre guillemets, la personne ou la manière de vivre de cette personne. À tel point que la conclusion du Rav, Rabbi David Avraham Azoulay, dans Chesed l'Avraham, c'est que la terre d'Israël, où elle vomit ses habitants, chas v'shalom, parce que l'habitant n'est pas à son niveau, où elle absorbe ses habitants, et tant que la terre n'a pas rejeté quelqu'un, entre guillemets, il a la qualification de tzaddik. Et donc il y a quelque chose de très fort ici, qui voudrait dire que la notion de tzaddik se voit par rapport à l'acceptation de la terre de la personne. Donc tout celui qui habite en Eretz Israël s'appelle tzaddik, et la preuve que ramène Rabbi David Avraham Azoulay, Todarabba, c'est que la terre ne le vomit pas, que la terre ne le rejette pas. Donc ce que vous croyez peut-être jusqu'à maintenant comme une malédiction, lorsqu'on dit que Eretz Ochelet Yoshvea, c'est une terre qui mange ses habitants, en réalité c'est une bénédiction, elle absorbe ses habitants, et au contraire, elle a une digestion de ses habitants, car ses habitants représentent une nourriture en réalité qui correspond à la racine, à la qualité de la terre. Donc il y a un mariage entre la terre et l'homme. L'homme mange le produit de la terre et la terre absorbe l'homme. Donc il y a un roulement à tel point que l'homme et la terre, en réalité le peuple et la terre, ne font qu'un. Et là il y a en réalité ce lien qui dépasse l'entendement dont parle le Rav Kook dans Oroth, où il désigne ce lien comme quelque chose qui dépasse l'entendement humain, qui n'est pas compréhensible à l'homme, et qui dépasse en fait le côté rationnel du lien. Et il parle là-bas de la nécessité d'étudier les secrets de la Torah afin de comprendre un petit peu plus ce lien. Et celui qui n'étudiera pas les secrets de la Torah, qui n'approfondira pas sa Torah, n'aura pas un véritable lien avec cette terre. Ça sera un lien superficiel, mais pas encore un lien intérieur au niveau de l'âme.
Ken. On peut quand même être absorbé par la terre et vivre en étant rachat.
Alors, c'est ce que la question qui se pose, c'est si je vis sur la terre d'Israël et je suis considéré par Rabbi David Avraham Azoulay comme étant un tzaddik, mais si dans mes actes je n'applique pas la Torah et la mitzvot, alors quelle est ma définition de tzaddik? Et donc nous sommes obligés de conclure qu'il y a deux degrés de tzaddikim. Il y a des tzaddikim qui sont au niveau de leur nation, même si au niveau individuel ce sont des réchaïm, et il y a d'autres formes de tzadikim qui au niveau individuel sont des tzadikim car ils font la Torah et les mitzvot, mais au niveau national de leur nation ils sont chas v'shalom des réchaïm. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a deux formes de liaison. La liaison n'est pas seulement avec la Torah, elle est aussi, peut-être même avant, avec la nation d'Israël, car sans la nation d'Israël, il n'y a pas de Torah. Juste pour vous rappeler que la Torah n'a pas été donnée à des Juifs, elle a été donnée au peuple. Et donc, c'est parce que tu fais partie de ce peuple que les mitzvot et la Torah tout entière te parlent, s'adressent à toi. Si tu ne fais pas partie de ce peuple, la Torah, les mitzvot en tout cas, ne s'adressent pas directement à toi, puisque un goy est libre de ne pas faire les mitzvot de la Torah. Ça veut dire que c'est notre lien à la nation qui nous donne le lien avec les mitzvot de la Torah. Okay. Donc il y a deux degrés de tzadikim. Okay.
C'est-à-dire que les gens qui ne respectent pas la Torah en Israël, par exemple, il n'y a que le sroud d'habiter en Israël.
Nachon. Alors c'est un tzadik au niveau klali, collectif, parce qu'il vit avec sa nation, il vit au rythme de sa nation, mais il doit arranger son côté rachat individuel. Et il doit le faire tzadik.
Et
quelqu'un qui est tzadik en dehors de la terre devrait compléter sa tzidkout, non seulement dans la Torah et les mitzvot où il est déjà tzadik, mais en venant rejoindre la notion de Ham Israël pour vivre au rythme de sa nation et pas seulement au niveau individuel. C'est ce que le prophète dit, c'est que la venue en Eretz Israël, c'est le début en fait de toute la correction, ce qu'on appelle dans le langage aujourd'hui bien connu de tikkun. Le retour en Eretz Israël, c'est le début du tikkun. Ce sont des références qui sont prises directement chez nos prophètes, Yeheskel 36. Et, d'une manière générale en Égypte, on voit que la sortie d'Égypte précède à tout le reste. Okay? Et c'est pour ça que les langages que Moshe Rabbeinu va recevoir de Dieu dans la paracha de Shemot, justement puisque nous y sommes, c'est 4 degrés de sortie, de rédemption. La première d'entre elles, c'est Vehotseti. Je sortirai, je vous ferai sortir. Vehotseti etrem. Donc si tu ne sors pas, on ne peut même pas commencer à parler, entre guillemets. Après Vehotseti, Vehitzalti etrem. Je vous sauverai. Bien que la logique pourrait nous dire, il faut d'abord peut-être nous sauver. Okay? Dieu dit non, je vous sortirai, je vous sauverai. Vegaalti, je vous délivrerai. Regardez, ça arrive en troisième position, le terme de Geoula. Velakarti etrem li le'am, et je vous prendrai comme peuple, quatrième degré. Ça veut dire épousaï. La karti, qui ikar ish isha, c'est le mariage. Donc Akadosh Baruch Hu veut se marier avec l'assemblée d'Israël, et il y a 4 degrés qui amènent finalement ce mariage. C'est d'abord nous faire sortir de là où nous sommes, du lieu qui ne correspond pas à notre nature, de nous sauver, de nous donner une geoula, et enfin de se relier avec nous, okay, mari et femme. Donc nous voyons ici qu'il y a une évolution dans le processus du retour du peuple sur sa terre. Alors on va continuer dans le texte, avec votre permission. Ceux qui n'ont pas de texte, il y en a ici encore. Okay. Il y en a là-bas aussi. Monsieur. Okay. Alors, nous sommes à la partie gauche. Vehin hine. Kiken man de ate. Ve'aite talmudo beyado. Donc, celui qui vient et qui a son Talmud dans sa main. Autrement dit, nous sommes en train de parler des gens qui ont étudié la Torah déjà en dehors de la terre d'Israël. Et ils viennent avec un bagage de Torah. Et chacun a eu l'habitude d'évoluer dans le monde de la Torah selon sa capacité, selon sa manière de recevoir les choses, selon sa vision des choses. Im Torah, ve'irat shamaim sherachash bagalut. Donc nous parlons bien de Torah et de crainte du ciel qu'il aura acquis dans l'exil. Donc c'est un bagage de Torah, de crainte de Dieu, que l'homme a gagné déjà en Égypte, ou en exil. L'Égypte et l'exil, c'est pareil. Il faut que vous compreniez que chaque fois que la Torah parle d'Égypte, elle parle de tout. Elle parle de la France, des États-Unis et du Portugal. C'est pareil. Okay? Le langage de la Torah est codé. Donc lorsqu'il dit Égypte, il veut dire tout en dehors d'Eretz Israël. Donc c'est un langage commun à toutes les exils. C'est pour ça que l'exil d'Égypte, c'est la matrice de tous les exils. C'est grâce à la matrice Égypte comme exil que nous allons avoir le modèle, en fait, premier de tous les exils de l'histoire. La même chose au niveau de la Géoula. C'est en comprenant la Géoula d'Égypte qu'on aura tous les modèles de Géoula jusqu'à la fin des temps. Donc, tous les jours, nous avons l'obligation de nous rappeler de la sortie d'Égypte et de le dire. Zecher l'Itziat Mitzrayim. Et à chaque fois qu'on fait une fête, à chaque fois qu'on fait un kiddush, tout le temps, on se rappelle activement, c'est un souvenir actif, de la sortie d'Égypte. Autrement dit, ne t'endors jamais dans aucun exil, parle pas seulement de celui d'Égypte, mais souviens-toi activement que tu dois quitter tous les lieux sur terre qui ne correspondent pas à ta nature profonde, car en réalité, tu vas partir et dans une perdition, dans un oubli de ton identité, et chas v'shalom, ou toi, ou tes enfants, ou tes arrière-petits-enfants, vont subir les conséquences. Donc, même si tu as de la Torah, même si tu as de la crainte de Dieu, que tu as acquis pendant l'exil, ve'hu savour shekaet miyad yizkel alot od ma'alot bizkut gedushata shel Eretz Israel, et un homme qui revient à sa source, donc il vient, qui monte en Eretz Israël, il a l'impression qu'immédiatement, tout de suite, il aura le mérite de monter dans les étapes de la sainteté de la terre d'Israël. Il est venu avec son bagage de Torah et il va continuer son ascension. Il va monter encore plus. Ulam en hadavar ken. Et il s'aperçoit très vite que ça n'est pas le cas. Il est déçu très vite. C'est-à-dire, il se passe quelque chose qui n'est pas naturel. Normalement, quelqu'un qui était déjà dans la Torah, qui évoluait dans la Torah, devrait continuer à évoluer puisqu'il monte en Israël et que la terre d'Israël, c'est la terre du Saint béni soit-il. Donc son évolution devrait être encore plus croissante, normale. Eh bien, il se passe quelque chose de bizarre. Lo mitdar le betechila bekan. Ça ne se passe pas immédiatement. Ce n'est pas quelque chose, un phénomène qui se voit, qui est visible dès le départ. Ça commence par une crise où cette personne n'arrive pas à trouver son lieu sur la terre d'Israël. C'est-à-dire il y a un lieu précis qui apparemment correspond le plus à cette personne-là, mais pour arriver à trouver ce lieu, il faut encore une recherche sur la terre elle-même. C'est-à-dire, il est arrivé, il a déjà su que ça se passait ici, c'est déjà un bon point. Mais lorsqu'il arrive ici, il est encore dans une recherche, ici même, dans le Kodesh, où se trouve l'endroit qui est propice à son évolution. Il ne le trouve pas immédiatement. Il y a un travail à fournir pour trouver ce lieu. Mamash da'atom metorefet alav, et les expressions ici du Rav sont difficiles. Il dit qu'il devient presque fou, parce qu'il n'arrive pas à trouver l'endroit correspondant à ce qu'il est. Kol musagei avodat Hashem shelo mitbalbelim ve'ovdim mimeno. Et il est possible que tout ce qu'il a acquis concernant le travail divin commence à se perturber, commence à se mélanger, ve'ovdim mimeno, même à se perdre de lui. C'est-à-dire qu'il a l'impression d'y laisser des plumes. Il est en train de perdre la Torah qu'il a acquis jusqu'à maintenant. Tarof itaref be'ain penot el hamenucha ve'el hanachala. Et tout le repos qu'il espérait trouver ici, eh bien, pour l'instant, il ne trouve pas du tout ce repos. Il est dans une mélancolie, il est dans un tourbillon, dans une tempête intérieure. Ya'ale ha-shamayim yered tehomot. Et de temps en temps, il monte vers le ciel, il a l'impression que ça y est, il est arrivé, et d'un coup, on le rejette en bas au plus profond des abîmes. Donc il y a ici des changements de situation qui sont extrêmes, qui ne mettent pas l'homme dans une position de stabilité. C'est exactement l'inverse. Il est dans l'instabilité totale dans la première étape de son arrivée en Eretz Israël. Keonia metorefet bayam, le Rav compare ça à un bateau qui est dans une pleine tempête, en pleine mer, et ce bateau monte au-dessus des vagues et il descend au fin fond des vagues, et tous les habitants de ce bateau, c'est-à-dire toutes les formes intérieures de l'homme, se mélangent et tombent à droite, à gauche, manquent de stabilité, okay, ne sont pas dans une position normale de tranquillité. Kol kochotav mitaltelim, donc il perd ses forces, puisque toutes ses forces vont juste à tenir l'équilibre, donc il n'a plus de force pour faire autre chose. Kol ruchaniuto na'aset bilti meuzenet, sa spiritualité commence à devenir instable et déséquilibrée. Ou bilti yetziva, donc il manque totalement de stabilité. Umatrid et acherim be'inyanav, il commence à embêter même les voisins, ses copains, ses amis avec tous ses problèmes. Ubema'asav anhagotav, ses agissements ne sont plus de bons agissements, il est très nerveux et ses conduites ne sont pas de bonnes conduites. Là aussi, il y a la colère, il y a les nerfs, il y a la déception, tout se mélange. Et en fait, cet homme ne trouve pas du tout sa place, il est dans une situation délicate, difficile. Veino yachol istader levado, tel point qu'il n'arrive plus à s'arranger tout seul, à se débrouiller tout seul. Hei Torah ve hei mitzvah, où est sa Torah, où est sa mitzvah, ma dehave lohave, tout ce qu'il avait n'est plus. Tout a disparu. Hein? Rashi, là-bas sur place, dans la Gemara de Brachot. Bitouize, d'où vient cette expression-là? Tout ce qu'il avait, où est-ce que ça te trouve? Tout a disparu. Vient de la Gemara, donc de Brachot, à la page 31. Hei Torah ve hei mitzvah. Où se trouve sa Torah? Où se trouve sa mitzvah? Par rapport à quoi c'est rappelé dans la Gemara? Bien, c'est une partie d'un chant que Rav Hamnouna Zouté chantait dans un mariage. Ken, la Gemara raconte que Rav Hamnouna Zouté chantait dans un mariage, et parmi les paroles de cette chanson, il y avait donc « Hei Torah ve Hei Mitzvah ». Où est la Torah, où est la Mitzvah? C'est ce qu'il disait. Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi voulait faire référence Rav Hamnouna en plein milieu d'un mariage? Alors qu'on l'invitait dans des mariages, il chantait cette chanson-là. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il voulait dire « Où est la Torah qu'on a étudiée jusqu'à maintenant? Où sont les mitzvot qu'on a appliquées jusqu'à maintenant? » Qu'il nous protège de Chas veshalom sheyagenu alenu midina shel gehenom, du jugement de l'enfer. Alors, on ne comprend toujours pas ce qu'il voulait dire par là. Est-ce qu'on chante une chanson pareille dans un mariage? Ce ne sont pas des paroles qui correspondent à un mariage. Okay? Où est notre Torah? Où est notre mitzvah? Toutes les mitzvot qu'on a faites? Okay? Dieu fasse en sorte que ça nous protège du jugement de l'enfer. Pourquoi chanterait-il de telles chansons, de telles paroles dans des mariages? Donc, le Rav pose la question, qu'est-ce qu'il voulait dire? Quel était le sens de ces paroles? Bishat Khatuna, lorsqu'il y avait un mariage, Keshechashash Rav Hamnouna, il avait peur, Rav Hamnouna. De quoi? Shema mitoch asimcha yetera, parce qu'il y avait tellement de joie, et il voulait tellement rentrer dans la joie, qu'il avait peur qu'en réalité, Yabed Mishehu et Acheshbon shel Azehirut viyavol idei kalut rosh. Que quelqu'un parmi l'assemblée, parmi les gens qui sont venus au mariage, perde un peu la tête, se saoule un peu, soit tellement dans un excès de joie, qu'il fasse des choses qui ne sont pas très au niveau de la tzniout, au niveau de la correction, au niveau du comportement d'un juif. Et donc, une petite légèreté de tête, ce qu'on appelle kalut rosh en hébreu, aurait pu le faire sortir, pourrait le faire sortir du droit chemin pendant le mariage. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Hamad ve'arach cheshbon shel kovid rosh ve'achrayut. Il a fabriqué une chanson, un chant. Et donc à chaque fois que les gens commençaient un petit peu à se chauffer dans un mariage, à se lâcher, il leur chantait cette chanson. N'oubliez pas, nous avons un jugement dernier et faites gaffe, faites attention à ce que vous êtes en train de faire. Ne vous lâchez pas totalement, gardez un comportement normal, okay? Ne vous perdez pas. Donc, achrayut, il y a ici une responsabilité, veizkir et ha'amida ha'matmedet shel ha'adam. Donc, il est là pour nous rappeler constamment, okay? C'est celui un petit peu qui cachait la fête, okay? Comment on dit en français, celui qui cache un peu, hein? Non, pas un rabat-joie. Non, c'est, il y a une autre expression. Celui qui vient et qui casse en fait l'ambiance un petit peu. Hein? Un casseur d'ambiance, top. Okay. Alors, il y avait une expression, j'ai oublié. Lochashuv. Et il est là, en fait, pour descendre le niveau de la température, en fait, ambiante, du mariage. Et il ramène l'homme à une conscience. Mikor hatvia pnimit shelo. En réalité, qu'est-ce qu'il lui dit à cet homme? Il lui dit, rappelle-toi qui tu es dans ton intériorité. Tu es un homme. Et comporte-toi en tant que tel. Fais attention de ne pas perdre ton côté humain, même lorsqu'il y a des excès de joie dans ta vie. Garde ta stabilité d'homme, reste un homme dans toutes les situations. C'est ça que ça veut dire. Parce qu'il y a une force à l'intérieur qui demande de toi, qui te demande, qui te pousse à rester un homme. Et qui c'est cette force intérieure? C'est la Neshama. La Neshama que nous avons à l'intérieur de nous, nous donne une émission constante et qui dit, reste un homme, sois un homme, ne perds pas ta stabilité d'homme dans n'importe quelle situation de la vie. Alors, lorsqu'il y a des moments difficiles, là aussi, chas v'shalom, mais là on parle aussi, même dans des moments de joie, fais attention de ne pas te perdre dans ces moments de joie, dans un laisser-aller total qui va te donner une certaine légèreté où tu vas perdre ton degré d'homme. El mul ha'emet ha'mukhletet shel ha'olam, garde en face de tes yeux la vérité absolue du monde, c'est-à-dire que le divin est toujours là, qu'il est dans une observation totale, que tu es dans un degré de responsabilité et ne perds pas ce degré-là. Shehi hi dina shel gehenom. Et c'est comme ça qu'on compare le terme de din gehenom, du jugement de l'enfer. Autrement dit, qu'est-ce que c'est le jugement de l'enfer? C'est pas qu'il y a un monstre avec une fourche qui est en train de te juger dans un monde de flammes, mais en réalité, c'est la vérité absolue de notre vie qui nous apparaît et elle apparaît face à ce que nous avons vécu de notre vie. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'est-ce que c'est que l'enfer en fait? C'est qu'on te met en face de ton vrai miroir. Okay? Alors si tu t'appelles Nagid Asher, eh bien on va mettre Asher en face du vrai Asher. Et le vrai Asher, c'est celui dont Dieu t'avait fabriqué, okay? Que Dieu t'avait donné au départ, ton potentiel Asher. Et on veut voir aujourd'hui, est-ce que tu as été exactement fidèle à ce degré que Dieu a créé, ou est-ce que tu t'es comporté complètement différemment de ce que tu devais être? Donc on va te comparer avec qui? Avec toi-même. Et le décalage entre vous deux, c'est en réalité la valeur de l'enfer que tu vivras. Chas v'shalom. Okay? Donc vous comprenez ce que c'est l'enfer. En hébreu, l'enfer se dit un grand vide. Gei ben hinom. Ken gehenom. C'est-à-dire une grande vallée vide. En réalité, c'est le fossé qui est entre toi et toi. Entre ce que tu es dedans et ce que tu parais dehors. Okay? Si tu es un tricheur, eh bien, va se créer un fossé entre ce que tu es dedans et ce que tu es dehors. Tu as l'impression de mentir à tout le monde autour de toi. Personne ne le sait parce que tu caches ton jeu. Mais en réalité, tu ne peux pas cacher ce jeu à la lumière divine. Donc un jour, on va te montrer devant un miroir qui tu es vraiment et qui tu as été ici dans ce monde. Et si ce n'est pas exactement collé, et ça c'est le Gan Eden, ça c'est le paradis, eh bien, tout décalage, c'est 1 degré d'enfer, 2 degrés d'enfer, 3 degrés d'enfer, 4 degrés d'enfer, et ainsi de suite. Plus le fossé est grand, plus la souffrance apparaît. Ce n'est pas une souffrance de quelqu'un qui te punit, c'est tout simplement parce que tu es en décalage avec toi-même, et c'est ça qui crée cette souffrance. Il va falloir combler ce vide qui a été créé. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est une responsabilité, ne vous inquiétez pas, il n'y a personne qui va vous juger extérieurement à vous-même. C'est vous-même qui allez juger vous-même. C'est votre Neshama divine qui est à l'intérieur qui va vous dire, écoute, tu devais être X et toi tu étais Y. Si tu es X, tu devais être X, correspondant. Et si tu es décalé, malheureusement, alors il y a une souffrance. Alors au lieu d'attendre ce jugement dernier, il faut faire ce travail, chacun en face de ses responsabilités chaque jour. Et tu fais un cheshbon nefesh, tu fais un compte, tu fais un calcul par rapport à ce que tu es vraiment dedans, à combien tu es distant, combien est ton décalage par rapport à ta vraie identité intérieure, combien est-ce que tu racontes du baratin à tout le monde à l'extérieur, on a l'impression que tu es un tzaddik, mais tu caches quelque chose de mauvais, ou est-ce que ton potentiel tzaddik de l'intérieur, tu ne l'as jamais vécu, et pourquoi? Pose-toi les questions, mets-toi en face de toi-même, et évite en réalité des choses désagréables plus tard. Il y avait une question?
Oui, je voulais savoir si on peut retrouver ces sentiments à travers certaines peintures.
Tout à fait. Chaque fois, pas seulement une peinture, hein, une musique, oui, une peinture, tout ce que vous voyez, une expression qui est, en réalité, vous êtes témoin de cette expression, mais en réalité, c'est comme si vous étiez devant un miroir. Donc par rapport à ce que tu vas ressentir lorsque tu vas regarder un tableau, en réalité, même si ce tableau est invariable, il sera variable par rapport à la personne. Un exemple, quelqu'un qui est très triste aujourd'hui, qui s'est levé avec une certaine tristesse, s'il rentre dans une galerie d'art, il va trouver tous les tableaux tristes. Parce qu'en réalité, c'est le reflet de lui-même. Donc il va dire, ah, j'aime pas cette couleur, ça m'angoisse, il y a quelque chose qui est... Oh, c'est perturbé, machin. Et en réalité, il est en train de parler de lui. Okay? Soi-disant, en parlant de la toile. Okay? C'est un travail psychologique où on peut savoir dans quelle situation il se trouve. S'il vient de recevoir une super bonne nouvelle, il rentre dans la galerie, il dit, oh là là, quelle merveille! Il trouve les choses belles, même les choses qui paraîtront pas belles pour d'autres. Pourquoi? Parce qu'il est dans une position où son reflet revient vers lui-même. Et donc il y a changement de situation selon le degré dans lequel l'homme se trouve chaque jour. Et c'est comme un miroir, et tout ce qui se passe autour de nous, en réalité, c'est tout subjectif et pas objectif par rapport à notre situation d'aujourd'hui. Et nous devons toujours arriver à une objectivité. Or, l'objectivité n'est jamais de l'homme vers Dieu, elle est toujours de Dieu vers l'homme, car l'homme ne peut pas être objectif, il est toujours subjectif, il est par rapport à ce qu'il est lui-même. Alors, qu'est-ce qui nous reste? L'objectivité. Et comment je peux être objectif si je suis un homme? Eh bien, je ne ressens pas et ne fais pas les choses par rapport à moi seulement, mais je fais les choses parce que Dieu est descendu vers moi. Et ça, c'est objectif. C'est lui qui vient vers l'homme, c'est pas l'homme qui monte vers Dieu. C'est pour ça que c'est Dieu qui est descendu pour nous donner la Torah, entre guillemets. C'est pas nous qui sommes montés un jour sur une montagne pour lui dire on est prêt. Okay? Ça veut rien dire tout ça. C'est lui qui est venu vers nous. Donc la Torah, c'est une Torah qui est venue du divin vers l'humain. C'est ce qu'on appelle la prophétie. Okay? Ça veut rien dire. Chercher à s'élever, ça veut dire faire descendre un petit peu plus de Dieu en nous. C'est ça, s'élever. D'accord? Ça veut dire ouvrir un petit peu plus et le laisser un petit peu plus descendre. Mais jamais se sauver d'ici pour aller quelque part. Ce qui est complètement ridicule, puisque si je me sauve d'ici, je sous-entends que Dieu n'est pas là où je me trouve, pour aller ailleurs. Okay? Donc déjà, j'ai fauté. Et en plus de ça, je limite Dieu, puisque je vais vers une certaine direction, je monte. Donc j'ai l'impression d'avoir mis Dieu dans ma petite cervelle, et donc je l'ai limité à ce que moi je comprends. Encore une erreur, en route, en passant. Ça s'appelle de la Avoda Zara. Celui qui trouve, qui dit qu'il a trouvé Dieu, c'est de la Avoda Zara. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a limité Dieu à son petit cerveau, à ce qu'il vient de comprendre. C'est de la Avoda Zara. C'est mettre Dieu dans un petit panier, dans une petite boîte, et le mettre dans sa poche. C'est-à-dire, voilà tout le divin, je viens de le comprendre. Comprenez bien que c'est ridicule, c'est Dieu qui vient vers nous, c'est pas nous qui allons vers Dieu. Faire très attention à ça. Ça c'est une des règles du Rav Kook, il appelle ça la Hait Partzout. Je monte, style, ah, j'arrive. Ça n'existe pas. Ce sont des bêtises, c'est Dieu qui descend vers l'homme et nous devons seulement nous faire canal pour que Dieu nous traverse de plus en plus. C'est tout. Ça c'est l'élévation. Même quand vous faites une prière pendant la Hamida, que vous priez par exemple pour, je ne sais pas, pour un malade, c'est pas vous qui allez, en réalité vous descendez la guérison, elle passe par vous et elle va vers. C'est toujours du haut vers le bas. Tous les écoulements divins, entre guillemets, viennent du haut vers le bas. Donc, alors, cet homme-là, donc on a vu qu'il est dans une situation pas facile. Donc, alors, qu'est-ce qu'il voulait dire ? Pendant le mariage, on vient de le voir, donc ne perds pas ton degré homme. Donc il a écrit cette chanson, Rav Hamnuna Zute, et il a chanté pour que tout le monde, à commencer par lui-même, n'oublie pas sa stature d'homme dans n'importe quelle situation, même dans celle de la joie dans laquelle il se trouve pendant le mariage. C'est ça le digna shel gelom. Af beinyanenu, on revient maintenant. Concernant notre sujet. Kesherole Adam le Eretz Israël. Donc là, ça devient pratique, réel, manifesté dans notre vie. Lorsqu'un homme fait son alia, qu'il arrive en Eretz Israël. Lo ya'amdu lo ha-Torah ve-ha-mitzvot she'asak bahen bechutz la'aretz. Dit le Rav des choses terribles. Si ce n'était pas écrit, j'aurais pas pu les dire. La Torah qu'il a étudiée en Chutz La'aretz ne lui sert à rien. Incroyable, difficile. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle ne lui sert à rien? La compréhension de la terre d'Israël donne un nouvel éclairage Et ce que tu as acquis jusqu'à maintenant, ce n'est pas qu'il ne te sert à rien. Il te sert à rien par rapport au degré où tu te trouves maintenant. Il te servait dans l'étage d'en dessous. Mais comme la terre d'Israël n'est plus à l'étage d'en dessous, elle est dans un autre étage, c'est comme s'il fallait que tu mettes de côté ce que tu avais jusqu'à maintenant pour accéder au nouvel étage. Donc il y a ici une humilité. Et celui qui a du mal à lâcher prise en réalité avec cette humilité ne pourra pas accéder à la nouvelle force que la terre doit lui offrir. Parce qu'il veut garder ce qu'il avait jusqu'à maintenant, il a peur. Ken.
Je pense que bien sûr, par rapport à ce qu'on va avoir ici, ce qui va nous être offert, mais tout ce qu'on a, toute notre expérience accumulée à l'extérieur, quand cela arrive, c'est peut-être quelque chose qui va nous servir à construire notre vie ici.
Alors, il y a fait. Alors, c'est ce qu'on pensait. Jusqu'au moment où on a vu dans la Gemara, je vous rappelle, où Rabbi Zera, vous rappelez, a jeûné pendant 100 jours pour oublier son Talmud de Babylone. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il jeûne? Pourquoi il veut oublier son Talmud de Babylone? Alors bien entendu, je vais un petit peu dans ton sens. C'est pas qu'il a oublié les références, tout ce qu'il a étudié. C'est que tout simplement, il s'est rendu disponible au nouvel étage. C'est ça que ça veut dire. Donc tu dois un petit peu mettre de côté ce à quoi tu as accepté jusqu'à aujourd'hui pour être disponible à recevoir quelque chose de nouveau. Pas pour le nouvel étage. Ça va être quelque chose que tu mets dans un placard, entre guillemets. C'est comme si tu arrivais à un cours avec toutes tes connaissances et tu n'écoutes pas. Il y a fait. Si tu restes en dessous et tu te dis non, moi ce rave n'a rien à m'apprendre, moi j'ai déjà quelque chose, je suis déjà bloqué dans un système, j'arrive à mon cours et chaque fois qu'il va dire quelque chose, je vais le rentrer à quelque chose que j'ai déjà étudié, donc je n'accepte rien en fait. C'est un manque d'humilité, c'est un manque de vouloir monter, c'est un manque de lâcher prise. La terre d'Israël s'appelle la terre du lâcher prise, Eretz Knaan, Knaan qui veut dire la soumission. Si tu ne sais pas te soumettre à ce niveau, en fait à faire un reset, à passer par zéro pour regrandir, pour repousser à nouveau, il y a un problème. Un autre exemple, la graine que tu plantes dans la terre. La graine, dans son premier degré, qu'est-ce qui se passe? Elle pourrit. Et ensuite, elle repousse. Okay? Donc, il y a un passage obligatoire de toute cette décomposition. Okay? Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans la réalité? C'est difficile. Ça ne veut pas dire que je vais tout jeter. Qu'ai-je tout balancé, tout ce que j'avais jusqu'à maintenant. Mais ça veut dire se rendre disponible au nouvel étage. Okay? Bien sûr que c'est très sensible. Mishum shomed hu el mul ha'emet ha'beira shel eretz Israël. Et donc le Rav explique pourquoi il dit ça. Il dit parce que maintenant il est face à la vérité claire de la terre d'Israël. Ha'meira betochiuto. Et ça c'est une nouvelle vérité. C'est une Torah de l'intérieur. C'est une Torah du secret. C'est une Torah du fond, du profond, qui n'avait pas jusqu'à maintenant accès à cette Torah. Donc c'est un nouveau degré de révélation, une nouvelle force, un nouvel angle de vision qui n'avait pas, qui n'était pas possible de voir jusqu'à maintenant. Et il doit être disponible à recevoir cette nouvelle force. Donc ça va être une Torah qui va éclairer Betochiyuto depuis son intérieur. Veni dreshet leofia ou litgalot b'chaim. Et elle demande ici, laissez-moi sortir, laissez-moi apparaître. Ne m'étouffez pas avec vos acquis d'avant. Car si vous gardez vos acquis d'avant seulement et vous vous tenez à les garder, vous avez peur d'une nouvelle force de Torah, vous allez rester entre guillemets au niveau de ce que vous étiez avant, même si c'est un grand niveau. C'est encore un autre niveau qui est beaucoup plus petit que le nouveau degré dans lequel tu dois passer. Okay? Imaginez-vous quelqu'un qui est et dans une vitesse, à la troisième vitesse dans une voiture, quand il y avait encore des voitures avec des vitesses, il y en a encore un petit peu, okay? Et tu forces, tu arrives au maximum et tu entends le moteur qui va presque exploser. Et quelqu'un va te dire, tu sais, il faut faire un petit truc là, il faut passer. Tu dis, non, je ne peux pas passer, regarde, tu es à fond, c'est une merveille. Écoute le moteur, il est à fond, je suis à fond dans mon degré. Mais on te dit, oui, mais tu dois passer au quatrième degré, il y a un quatrième degré. Tu dis, oui, mais qu'est-ce que ça demande? Ben, ça demande de passer un petit peu au point mort, un dixième de seconde. Si tu n'es pas capable de passer à ce point mort un dixième de seconde, point mort, écoutez bien le mot. eh bien, tu ne peux pas vivre à la quatrième vitesse. Tu resteras toute ta vie à la troisième vitesse et tu vas avoir l'impression que tu as atteint le top niveau. Pourquoi ? Parce que c'est vrai. Au niveau du troisième degré, tu es au top niveau. On ne peut pas aller plus loin. Un peu plus loin, tu exploses la voiture. Seulement, tu as oublié que tu avais un quatrième niveau et un cinquième niveau. Exactement comme les cinq degrés de la Neshama. Okay ? Ça veut dire, si tu as peur de passer au point mort pour grandir, eh bien, tu vas rester petit. Et si tu as acheté un avion, tu pourras rouler au maximum sur le terrain de l'aéroport. Okay ? Tu ne pourras jamais voler. Tu vas utiliser ton avion comme une voiture. Et tu vas avoir l'impression que tu es au top niveau. Okay ? Imagine, je venais voir un avion qui monte à 250 km/h et il est sur la piste. Mais il ne monte pas. Alors, on n'a pas encore compris l'autre degré. C'est-à-dire ? Alors, je vous donne quelques exemples de la vie. Et ce sont des exemples, à mon avis, qui peut-être ne sont pas exactement ce que ça doit être, mais ça reflète quand même pas mal cette idée. Donc il faut avoir un certain courage. Je pense qu'il y a un élément de courage. Je pense qu'il y a un élément d'humilité. Donc il faut courage et humilité. Il faut une certaine... comment on dit gmishut, liot gamish, souple, une certaine souplesse, Ken, pour arriver à réaliser ce passage-là. Ken? Et donc, il y a ici quelque chose de réel. Be'akara ou be'ratson, et regardez les deux mots-clés qui arrivent en fin de phrase, be'akara ou be'ratson. Qu'est-ce que ça veut dire be'akara ou be'ratson? Qu'est-ce que c'est hakara en hébreu? Une prise de conscience, et ratson, c'est quoi? Une volonté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que j'avais jusqu'à maintenant, c'était à quel degré? J'avais pas encore de choix véritable. Comprenez? Et ça, on rentre déjà dans un autre domaine dont j'ai parlé il y a les cours d'avant, qu'on appelle le secret de la Nessira. C'est-à-dire qu'il y a un certain moment où nous sommes forcés de faire les choses. Il y a un certain moment où nous avons le choix de les faire. Vous vous rappelez? Et tant que tu ne t'es pas déconnecté du forcé de faire les choses, tu ne pourras pas choisir de faire les choses. C'est comme un enfant, il est forcé de faire ce que son papa dit, donc jusqu'à l'âge de, peu importe, il va être comme le petit-fils de son père, et tout ce que le père va dire, c'est « Kodesh Kodashim ». À partir d'un certain moment, il commence à découvrir que son père n'est pas « Kodesh Kodashim », que son père se trompe, que son père a des faiblesses, et donc l'enfant, qui n'est plus tout à fait un enfant, va se rebeller, va dire à son père « Atkan » jusqu'à là. Okay? « Tu m'as assez conduit, j'étais soumis à toi jusqu'à maintenant, et là, donc, il y a un passage qu'on appelle, nous ici, le point mort, un rejet total, c'est comme s'il repassait par zéro, et ça va lui permettre de quoi à cet enfant? De devenir indépendant. » Alors c'est obligatoire comme processus, ça fait très mal au père généralement, mais l'enfant a besoin de ça. Et après, qu'est-ce qui se passe? Le fils va, par choix, revenir vers le père ou pas du tout. Mais c'est un choix déjà. C'est exactement ce qui se passe chez nous vis-à-vis de Dieu. Nous avons tous des moments où nous avons grandi naturellement comme des petits-fils de Dieu, et à un moment donné, nous nous rebellons contre Dieu. On a l'impression qu'on connaît plein de choses et on rejette un petit peu. Et après, on revient par choix. Et c'est au niveau collectif, au niveau de la nation d'Israël, pareil. Il va y avoir une période où les gens vont être anti-Dieu. Parce que c'est le moment où ils se détachent. Ils font une crise d'adolescence. Et après, ils vont revenir par choix. Et ça, c'est la période messianique. Vous comprenez? Tout est réglé. Et ça fait peur quand ça se passe. Mais en réalité, c'est un élément obligatoire, naturel du processus. Il ne faut pas avoir peur. Des questions jusqu'à maintenant? On continue. Zman rav over, donc il va se passer beaucoup de temps. Il faut avoir de la patience. Okay? Ça aussi, on peut le rajouter dans ce que j'ai dit tout à l'heure, de la patience. Okay? Pour tous ces degrés de d'être capable de monter à un autre niveau. Zman rav over ad yassim tehila baaretz vashem itbarach mar elopanim. Beaucoup de temps va passer avant que cet homme va commencer à louer la terre, c'est-à-dire à dire du bien de cette terre. Vehashem Yitbarach Mar Elopanim, et avant que Dieu ne lui montre son vrai visage. Ça veut dire Dieu en fait joue à cache-cache au départ, pour voir si vraiment tu te colles à cette terre, ou si tu es à distance et tu te poses encore des questions, tu n'as pas encore compris tout à fait la qualité intrinsèque de cette terre. Donc Dieu ne te montre pas son vrai visage pour l'instant. Dieu va montrer son vrai visage lorsque toi, à l'intérieur de toi, tu pourras véritablement choisir, ça y est, c'est fini. C'est ici que je suis, c'est ici que je construirai ma vie. D'une manière certaine, avec une certitude tellement forte que seulement Dieu peut savoir. Et donc lorsque Dieu va juger que c'est le moment, il va apparaître à toi, il va te montrer son vrai visage. Panim en hébreu veut dire aussi pnim, son intériorité. Donc jusqu'à maintenant tu as vu la terre et tout ce qui se trouve sur cette terre d'une manière superficielle, extérieure. À partir de ce moment-là, où Dieu va juger que tu es arrivé à maturité, tu vas commencer à voir l'intériorité de la terre. Tu vas comprendre des choses, tu vas voir des choses que les autres ne sont pas capables de voir. Encore une fois, je traduis ça à un homme. Il y a des hommes qui sont capables, quand vous allez les voir pour vous faire une bénédiction, qui sont de grands kabbalistes, de ne pas voir votre aspect extérieur. Tout de suite, ils vous racontent votre vie, ce que vous avez à l'intérieur. D'où ils savent? Eh bien, leur vision a changé. À partir d'un moment, il y a eu un switch, et Dieu leur a permis, il leur a ouvert les yeux de dedans, et ils voient les choses d'une manière profonde et pas seulement superficielle. Il est mignon, il est beau, il a l'air bien. Azishkot veyanuachlo. Et alors l'homme va arriver à son repos. Vehu davar she'en lo kitzba ve'orech hazman ve'ech ve'kama ve'matay. Et ça, personne ne peut savoir au niveau du temps combien de temps ça va prendre, comment ça va se passer, combien et quand. Ça veut dire, en réalité, c'est relatif à chacun. Chacun, au moment où il aura accédé à ce degré-là, d'amour véritable à la terre, il va accéder à ça, à cette connaissance, à cette vision intérieure. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. C'est-à-dire ?
Est-ce qu'on ne peut pas l'avoir avant cet amour à la terre ?
Oui, mais c'est un amour qui est platonique. Ce n'est pas encore un amour vécu. D'accord ? Aimer la terre à distance, c'est comme aimer une femme à distance. Ça ne veut pas dire grand-chose. Okay. De temps en temps, on lui envoie un mail ou un petit SMS, mais ce n'est pas encore de véritable amour. Le véritable amour, c'est de se lier à cette femme, de vivre avec elle, de construire avec elle. Et donc ça, c'est déjà, ça demande un accès, ça demande une liaison, ça demande un lien, ça demande un vécu, ça demande beaucoup plus de choses. Alors c'est vrai, c'est une étape, okay, mais c'est encore platonique, c'est encore virtuel. Le véritable amour, comment est-ce que vous pouvez traduire « aimer » ? Par quoi on peut traduire le mot aimer? Donner. Femeod. Aimer, c'est donner, c'est tout. C'est ce que les sages de la Torah nous expliquent. C'est pour ça que aimer se dit en hébreu chesed, pas seulement ahava. Chesed, c'est synonyme de ahava, d'amour. Donc quand tu aimes, tu donnes. Et donc cette terre, il faut qu'on arrête d'avoir un rapport de combien elle va me donner. Mais commencez toi à donner à cette terre. Donnez-toi à ce peuple. Donnez-toi à ta nation. Arrête de réfléchir en tant qu'égoïste combien ça va me rapporter de rester ici. Combien je peux donner à cette terre. Chacun de nous a des qualités que Dieu lui a données. Et il faut qu'il les utilise pour donner ses qualités à la terre à laquelle il appartient véritablement. Petit exemple. Si je suis ingénieur, eh bien, au lieu d'aller donner un prix Nobel aux États-Unis, je vais le donner à mon peuple sur ma terre. Et je vais avoir un orgueil national qu'un grand ingénieur, qu'un grand scientifique d'Israël a eu un prix Nobel dans je ne sais quelle recherche. Quand un joueur olympique va sortir d'Israël, il va donner, quand il va se mettre sur le podium pour recevoir une médaille d'or, et qu'on va entendre la tikva, en fond, il va donner un orgueil national à sa nation d'Israël. Autrement dit, tous les juifs du monde, au lieu d'utiliser leur force pour les nations étrangères dans lesquelles ils vivent, s'ils étaient ici, eh bien toute la science, toutes les mathématiques, tout l'art, tous les degrés, ils sortiraient en fait avec un honneur et un orgueil de cette nation-là, au lieu de se disperser et de devenir un super médecin à je ne sais quel coin paumé des États-Unis et un super gynécologue dans un hôpital à Paris, okay? Avec un nom juif très connu dans le monde. Okay? C'est un gaspillage d'énergie, au lieu de le donner à ta planète, à l'endroit de la planète qui correspond à ta nature, à ton peuple, à ta nation, tu es en train de gaspiller tes forces ailleurs. Ça paraît très radical ce que je dis, mais en réalité, je suis là pour vous faire des caricatures, parce qu'on doit tendre vers cet amour et la prise de conscience que mes forces, je dois les donner à celui qui m'appartient. Okay? Si je vous donne un exemple un petit peu plus simple, vous allez le comprendre. Si j'ai une femme à la maison, et qu'au lieu de donner à ma femme ce que je devais lui donner, je vais donner à une autre femme, okay? Vous comprenez vite la relation qui commence à se créer. Cet exemple que je viens de vous donner, ce n'est pas moi qui le donne, c'est le Zohar. Le Zohar donne exactement cet exemple de la femme. Il dit que quelqu'un qui n'habite pas sur sa terre, c'est comme s'il gaspillait sa semence avec une autre femme à l'extérieur. Très, très difficile. Ce sont les paroles du Zohar. Okay? Et quand le Zohar parle, tout le monde se tait. Okay? Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'y a pas de machloket. Le kol echad le fi inyanav ou le fi ma'asav ou le fi shoresh nishmato. Donc chacun, ça va prendre du temps pour arriver à ce niveau-là. Meshech hazman, donc ça va durer. Ça dépend de ce que tu es. Ça dépend de, encore une fois, de ce test avec lequel tu ne peux pas tricher. Il n'y a que toi et Akadosh Baruch Hu qui savaient où tu en es, dans quel lien tu es. Okay? Et d'ailleurs, c'est la question que Dieu nous pose. Comme lorsque Adam s'est sauvé, lorsqu'il a fait ce qu'il a fait, il s'est caché dans l'arbre. Vous vous rappelez? Okay? Et Dieu qui apparaît dans le jardin, et qu'est-ce qu'il lui dit? Ayeka. Il lui pose une question, il le cherche dans le jardin, qu'est-ce qu'il lui dit? Où es-tu? Oui ou non? Non. Il ne lui dit pas où es-tu, il sait très bien où il est. Il lui dit, où en es-tu? De quoi tu te caches? Tu crois que tu peux te cacher de moi? C'est de toi-même que tu te caches. Est-ce que tu sais où tu es dans ta vie? Où en es-tu dans ta vie? Qu'est-ce que tu es en train de jouer avec des feuilles de vigne en train de cacher ta nudité? À quoi tu joues? Tu as encore un gamin qui est en train de jouer derrière les arbres. Eh bien, ce gamin, c'est chacun de nous. À notre âge, chacun à son âge, il est en train de jouer encore, de continuer à jouer à cache-cache. Avec qui? Avec lui-même. Il est en train de se mentir toute sa vie. Il faut faire attention de sortir de ce système. C'est un cercle vicieux. Il faut devenir des hommes vrais, authentiques, de plus en plus cohérents, liés à ce que nous sommes à l'intérieur. Arrêtez de tricher. Meshech Hazman. Kmotam ve'ichutim shel hamashberim. Ken? Et le Rav nous rassure, okay? C'est une façon de parler. Il nous dit il y aura des crises en chemin. T'inquiète pas, tu ne vas pas atteindre ce degré-là facilement. Il va y avoir beaucoup de crises et beaucoup de passages difficiles. Et non kavua veshavé la kol. Et chacun a sa manière à lui d'accéder. Ça veut dire que toi, tu auras accédé à cette chose et ton voisin aura peut-être un autre cheminement. Ce n'est pas pour tout le monde la même chose. L'un, ça va être très difficile, l'autre un petit peu moins. Mishum she'enze inyan techni mechani, parce qu'il ne s'agit pas ici de quelque chose de technique, de mécanique. Ela hofat chaim chadasha ve'meshuchlelet. C'est une apparition d'un nouveau degré de vie qui est très complexe et très composé de beaucoup beaucoup d'éléments. Tahalich hitbagrut ve'hitbashlut. C'est un processus de hitbagrut, comment on dit, de maturation, okay, de maturité, et hitbashlut, tu deviens de plus en plus mûr. Okay? Et ça dépend chez qui. Il y a quelqu'un, ça va se passer très vite, il va devenir mûr, comme un fruit mûr, assez rapidement. Et il y a chez qui, ça va prendre un petit peu plus de temps, ou beaucoup plus de temps. Bien entendu, tout ceci dépend du degré de l'âme que tu as. Chacun de nous est différent. Et ça dépend du degré de vie dans lequel tu vis. Donc n'essaye pas de faire des comparaisons. Lui, il est venu, ça a marché, au bout d'un mois, il a trouvé du travail, machin, tati tata. Moi, non, ouais. Non, ça ne marche pas comme ça. Chacun, son degré de vie, par rapport à sa capacité, à ce que Dieu lui a donné. Donc il ne faut pas faire de comparaisons, il faut avancer par rapport à ce que je suis moi-même. Jamais on te posera la question, pourquoi tu n'as pas été quelqu'un d'autre. Mais on te posera la question, est-ce que tu as été toi-même? Kol echad ve'echad, les filles n'y en ont. Donc chacun selon sa possibilité à lui. Ken kedushat haaretz poelet alav, et donc la sainteté de la terre d'Israël va agir sur cet homme selon son niveau à lui. Aucune comparaison possible. Ou be'etem leze, et par rapport à cela, hamashberim va'isurim ha'ovrim alav. Il aura des crises, il aura des chutes, il aura des tourments et des turbulences par rapport à son degré à lui. Ou meshech hazman hanidrash lo lehagia leshlemuto, et ainsi il aura aussi un temps bien précis pour arriver à maturité. Ça aussi, c'est entre lui et sa qualité d'âme et sa qualité de vie et ce qu'Akadosh Baruch Hu a prévu pour lui. Besiyumo shel hamichtav, à la fin donc de la lettre, Chozer Rabbi Avraham umazhir et talmidav, le Rav avertit ses élèves, il termine sa lettre, et nous aussi on va la terminer en même temps. Asher alken haba lageshet el kodesh pnima. Donc je vous dis, mes chers élèves, tout celui qui vient rentrer dans la Torah, à l'intérieur, qui arrive en Eretz Israël, qui veut accéder à ce nouveau niveau, Yasmin Atzmo l'Ekol Amour, qu'il se prépare à tout ce que je lui ai dit jusqu'à maintenant, Veyafrin Benafsho, et qu'il prenne conscience dans son âme, Asher Lo HaKoach La'amot Bechol Ele, qu'il a la force de passer toutes ces épreuves. Car sinon, Dieu ne donne pas ces épreuves-là. Donc, il a la capacité de le faire. Il peut réussir. Vous pouvez réussir. Achana nafshit rabba nidreshet kan. Donc, bien qu'il y ait une préparation énorme au niveau de l'intérieur, de l'âme de la personne, leishamer delaligzezu adunudnemine, de ne pas perdre ses oreilles. C'est une expression. Les sages, qu'on ne te coupe pas les oreilles en route. Kemashal hagamal. C'est un exemple que la Gemara dans Sanhedrin 106 rapporte, un exemple du chameau chez Alach Lechapes Karnaim qui est parti se chercher des cornes. Un chameau qui cherche des cornes. Vegazezu lo af etoznav, on lui a dit, on va te couper d'abord les oreilles avant que tu commences à recevoir des cornes. Donc finalement, vous avez compris qu'il n'a pas reçu de cornes, mais il a en même temps perdu ses oreilles. Qu'est-ce que cet exemple vient nous dire? Ne cherche pas à devenir celui que tu n'es pas, parce que celui que tu es, tu vas le perdre. Et si tu n'es pas, tu ne seras jamais. Donc tu vas tout perdre. Donc faites attention de ne pas vous déguiser en quelqu'un d'autre. Soyez vous-même. Kach harotze lehagia lemadrega gvoha be'eretz Israël. Donc celui qui veut accéder à un haut niveau sur la terre d'Israël. Ve'ino yodea leachin libo b'gvura. Et qui n'a pas le cœur d'un homme courageux. Voulé hatmid b'ma'avak. Et quelqu'un qui va savoir qu'il va y avoir des guerres. Et qu'il va être obligé de se battre. Sofo sheyetze kereach mikan ou mikan. Il va sortir chauve de là et de là. Ken, il y a une autre expression que les sages nous racontent. C'est un homme qui a deux femmes, une jeune et une vieille. Et chaque fois qu'il vient chez la jeune, Ken, elle lui dit, oh mon chéri, ah, je vois un petit cheveu blanc. Et comme elle est jeune, qu'est-ce qu'elle lui fait? Elle lui enlève les cheveux blancs pour qu'il reste avec ses cheveux noirs. Et quand il revient chez la femme un petit peu plus âgée, il dit, oh mon chéri, tu as encore quelques cheveux noirs. Elle lui enlève les cheveux noirs. Finalement, au bout du compte, au bout de 2 semaines, il est complètement chauve. Okay? Ça veut dire qu'il a tout perdu parce que chacun tire de son côté. Madrigato akodemet te'abed mimeno. Et la madriga chadasha ve'elyona lo yiske le'agia. Donc, si tu as perdu ton degré d'avant et tu n'as pas encore eu ton degré prochain, nouveau, tout ceci parce que tu t'es démoralisé en route. Alors qu'est-ce que tu as fait en fait? Tu as tout perdu. Parce qu'on t'a dit de lâcher le premier niveau, mais sur la route du deuxième niveau, tu es déjà en pleine dépression, tu as tout lâché. Lachen yeshaer be'atzmo she'al kol panim rov midotav metukanim ve'uim sholban. Il faut que tu aies confiance, dit le Rav, que la plupart de ce que Dieu t'a donné, c'est en toi, tu as tous les éléments possibles pour réussir, tu pourras dominer ta vie. Az yelech la betach. Et alors là, maintenant, tu peux marcher avec toute sécurité. Darko be'atzad gdolei ha'etza. Prends conseil toujours de gens qui sont autour de toi, qui sont dans la Torah, qui ont une référence de vie qui est liée au divin, donc des rabbanim, qui sont de bons conseilleurs, asher immahem, qui seront autour de toi. Et celui qui m'écoute, Ishkon Betach Sha'anan, il aura une sécurité, je lui promets, de réussir sa vie. Atkan Le'ayom.